Chapitre 3. Callan donna de petits coups de talon dans les cailloux qui tapissaient le fond du bassin et glissa lentement jusqu'à ce qu'elle soit dans les bras de Richard. Allongés sur le dos dans une eau peu profonde, ils étaient immergés jusqu'au cou. Pour la première fois de sa vie, la jeune femme voyait l'élément liquide sous un nouveau jour, extrêmement excitant. Ils avaient trouvé l'endroit parfait dans le réseau de cours d'eau qui traversait la plaine en serpentant autour de gros rochers. Les ruisseaux qui coulaient un peu plus loin au nord rafraîchissaient l'eau des sources chaudes, dont la température sans cela aurait été insupportable. On trouvait peu de bassins aussi profonds dans le coin, et ils en avaient testé plusieurs avant de découvrir celui qui leur conviendrait. De hautes herbes entouraient leurs thermes improvisés, leur offrant toute l'intimité souhaitable pour profiter de leur bain sous la douce chaleur du soleil. Confirmant la prédiction de l'homme-oiseau, des nuages se profilaient à l'horizon, et une brise pas si chaude que ça faisait onduler de plus en plus violemment la végétation. Dans les plaines, les conditions climatiques pouvaient changer très vite. Le temps radieux de la veille tournait au maussade, mais cela ne durerait pas, car le printemps ne se laisserait pas chasser aussi facilement. Toujours aussi facétieux, l'hiver leur envoyait un glacial baiser d'au revoir, et l'eau de leur tiède sanctuaire frissonnait sous ses ultimes caresses gelées. Au-dessus d'eux, un faucon en quête d'un repas décrivait de grands cercles dans le ciel. Callan en eut le cœur serré. Alors que Richard et elle savouraient leur bonheur, des cerfs impitoyables mettraient bientôt un terme à une vie. Ces derniers temps, elle avait appris ce qu'on ressentait quand on était pris pour cible par des carnassiers, une bonne raison pour se sentir solidaire de toutes les proies de la création. Invisibles, comme à leur habitude, les six chasseurs montaient la garde à une distance raisonnable du bassin. Kara devait patrouiller dans le périmètre, histoire de s'assurer que les hommes d'Adobe faisaient bien leur travail. Même s'ils ne se comprenaient pas, la mort de Sith et les hommes de Chandalen s'entendaient à merveille, car ils étaient tous des protecteurs. Aux yeux de Kara, ce travail était un sacerdoce, et elle aimait savoir que les chasseurs partageaient sa vision des choses. « Même si nous ne l'avons pas fêté longtemps, » dit Callan en aspergeant d'eau les bras de Richard, « je n'aurais pas pu rêver d'un plus beau mariage. Et je suis si contente de te faire découvrir cet endroit charmant. »« Je n'oublierai rien de tout cela, » souffla Richard en posant un baiser sur la nuque de sa compagne. « La cérémonie, la maison des esprits, ses sources. »« Je compte bien que tu te souviennes de tout, Seigneur Hall. » Sinon, tu auras intérêt à numéroter tes abattis. J'ai toujours rêvé de te montrer mon pays natal, et j'espère pouvoir le faire un jour. » Le sourcier retomba dans son mutisme. Il ne boudait pas, comprit Callan, mais réfléchissait à des sujets qui ne devaient pas l'enchanter. Aussi fort qu'ils en aient envie, à certains moments, ils ne pouvaient pas oublier leurs responsabilités. Partout, des armées attendaient des ordres. Et en Aydinril, une horde de diplomates réclamait à corps et à cri une audience avec la mère inquisitrice ou le seigneur Hall. Tous ne se rallieraient pas à la cause de la liberté, car la tyrannie exerçait sur certaines personnes une étrange attirance. L'empereur Jagang et son ordre impérial ne feraient qu'une bouchée de ces imbéciles.
Oui, un jour, Richard,
murmura Callan en caressant la pierre noire du splendide collier en or qu'elle portait autour du cou. Un cadeau de Shota, qui s'était invité au mariage la veille. Selon la voyante, le bijou empêcherait les jeunes mariés de concevoir un enfant. Shota avait un don pour voir l'avenir, même si les événements tournaient rarement comme elle le prévoyait. Depuis qu'il la connaissait, elle affirmait que le fruit de l'union du sourcier et de la mère inquisitrice serait un fléau pour le monde. Et s'il s'agissait d'un garçon, elle avait juré de le tuer de ses mains. Au cours de leur périlleuse quête du Temple des Vents, Callan avait révisé à la baisse ses préjugés contre la voyante et les deux femmes avaient conclu un pacte de non-agression. Le collier était même une offre de paix puisqu'il éviterait à Shota d'étrangler l'enfant des deux jeunes gens. Mais pour l'instant, on pouvait seulement parler d'une trêve. « Tu crois que l'homme-oiseau était sérieux ?» demanda soudain Richard.
« On dirait bien en voyant arriver tous ces nuages.
Au sujet du poulet, pas de la pluie.
Callan se retourna dans les bras de son compagnon.
Le poulet? Celui qui n'en serait pas un? À mon avis, notre ami a un peu trop forcé sur les libations.
Avec tout ce qui le tourmentait, comment Richard pouvait-il se soucier d'une histoire aussi idiote? Il sembla reconnaître que l'argument de l'inquisitrice se tenait, mais continua à méditer en silence.
De grandes ombres s'étendaient dans la plaine à mesure que le soleil disparaissait derrière le banc de nuages au cœur grisâtre, ourlé de franges cotonneuses. La brise charriait maintenant une odeur d'ozone annonciatrice d'orage. Sur le petit rocher où Richard l'avait posé, sa cape battait au vent, un mouvement qui attira l'attention de Callan. Soudain, le sourcier la serra plus fort, et cela n'avait rien à voir avec le désir. Quelque chose bougeait dans l'eau. Une sorte de serpent de lumière. Un reflet sur les écailles d'un poisson? En tout cas, dès qu'il regarda directement ce phénomène, qu'il avait capté du coin de l'œil, Richard ne vit plus rien.
« Que se passe-t-il ? » demanda Callan alors qu'il la tirait en arrière.
« Ce n'était pas seulement un poisson ou quelque chose dans ce genre ?»«
Ou quelque chose dans ce genre ?» répéta sombrement Richard. Sa compagne dans les bras, il se releva, la sortant de l'eau. Trempée, elle frissonna sous la morsure de la brise pendant qu'il sondait le bassin.
« De quoi parles-tu ? Qu'as-tu vu ?»«
Je n'en sais rien. » Richard déposa Callan sur la berge. « Au fond, c'était peut-être un poisson. »«
Dans ce bassin, ils ne peuvent pas être assez gros pour me dévorer un orteil. Et je doute qu'il y ait des tortues d'eau douce par ici. » « Repose-moi dans l'eau, je meurs de froid. »
À contre-cœur, Richard dut admettre qu'il n'avait rien vu de menaçant. Il tendit une main à sa compagne pour l'aider à redescendre dans l'eau.
C'était peut-être un jeu d'ombre et de lumière à cause des nuages qui cachent le soleil.
Callan s'immergea jusqu'au cou et soupira de satisfaction quand une douce chaleur l'enveloppa. Alors que ses dents cessaient de claquer, elle sonda l'eau, si claire qu'on distinguait nettement le fond. Il n'y avait pas l'ombre d'un endroit où une tortue aurait pu se cacher. Pourtant, malgré ses propos rassurants, Richard regardait toujours l'onde paisible comme si un dragon allait en sortir.
« Tu crois que c'était un poisson ? Ou tu essaies de me faire peur ? Richard, tu deviens une pire mère poule que Cara. Ce n'est pas mon idée d'un bain agréable. Si tu as vu quelque chose, dis-moi ce qui t'inquiète. Ce n'était pas un serpent, au moins. »
« Je n'ai rien vu du tout, » soupira le sourcier. Il inspira à fond et passa une main dans ses cheveux mouillés.
« Désolé. Tu es sûr ? On peut s'en aller si tu préfères.
Non, inutile. Je crains que me baigner avec des femmes nues dans un endroit étrange ait tendance à me rendre nerveux.
Et tu te baignes souvent avec des dames dans le plus simple appareil, seigneur Rall ?»
Callan n'appréciait pas vraiment ce genre d'humour. Des réserves qui ne l'empêchèrent pas de vouloir se jeter dans les bras de Richard quand il la rejoignit dans l'eau.
Mais il se releva d'un bond. « C'était quoi ? »
cria Callan en tentant de l'imiter.
« Un serpent ?»
Le sourcier la repoussa dans le bassin. Alors qu'elle recrachait de l'eau, elle le regarda se précipiter vers leurs vêtements.
« Reste où tu es !»
ordonna-t-il en dégainant le couteau accroché à son ceinturon. Il s'accroupit, regarda autour de lui, puis se releva lentement.
« C'est Cara !»
Callan leva la tête et vit une silhouette rouge fendre les hautes herbes. La mort de Cid courait sans se soucier des éclaboussures qui jaillissaient autour d'elle quand elle traversait un ruisselet. En la regardant approcher, Richard lança à Callan une petite couverture. Cara accéléra encore sa course, agiel au poing. Cette arme magique fonctionnait seulement pour la mort de Cid qui la détenait. Dans ces conditions, elle lui infligeait d'atroces souffrances et pouvait même tuer si sa propriétaire le désirait. Chaque mort de Cid utilisant la gielle qui avait servi à briser sa personnalité, le prendre en main était aussi une torture pour elle. Une illustration frappante du paradoxe du bourreau à un détail près, la douleur ne s'affichait jamais sur le visage de ces femmes.
« Il est passé par là ?»
demanda Cara haletante quand elle s'arrêta devant le sourcier. Sur sa tempe droite, du sang maculait ses cheveux blonds et ruisselait le long de sa joue.
« Qui ? »
répliqua Richard, surpris de voir que les jointures de la mort de Sith avaient blanchi tant elle serrait fort son agiel.
« Nous n'avons vu personne. »«
Je parle de Johnny, »
rugit Kara.
« Que s'est-il passé ?»
demanda le sourcier en lui prenant le bras. Du dos de sa main libre, la mort de Sith écarta de ses yeux une mèche blonde rouge de sang.
« Je n'en sais rien, mais j'aurai ce salopard. »
Elle se dégagea, repartit et lança par-dessus son épaule.
« Habillez-vous !»
Richard aida Callan à sortir du bassin. Dès qu'elle eut enfilé son pantalon et ramassé une partie de ses affaires, la jeune femme se lança sur les talons de la mort de Sith. Encore occupée à se battre contre son propre pantalon qui refusait de glisser sur ses jambes humides, le sourcier lança un bras et la retint par la ceinture.
« Quelle mouche te pique !»
grogna-t-il en tentant toujours de s'habiller de l'autre main.
« Reste derrière moi !»
Callan se libéra d'une torsion des hanches.
« Tu n'as pas ton épée et je suis la mère inquisitrice. Pour une fois, le seigneur Ral fermera la marche. »
Une inquisitrice n'avait rien à craindre d'un homme seul. Contre son pouvoir, il n'existait pas de parade. Privé de son arme, Richard était plus vulnérable que sa compagne. À part une flèche ou une lance, rien ne pouvait empêcher une femme comme Callan de s'emparer de sa proie lorsqu'elle en était assez près. Et sa magie emprisonnait la victime dans des raies impossibles à briser. Ce destin était aussi irréversible que la mort. En réalité, c'était une forme de mort. Un être touché par le pouvoir d'une inquisitrice perdait son libre arbitre et son esprit, qui appartenait pour toujours à sa nouvelle maîtresse. À l'inverse du sourcier, Callan contrôlait sa magie. Sa nomination au poste de mère inquisitrice en attestait amplement. Richard ramassa sa ceinture, grogna de frustration et emboîta le pas à son épouse. Quand il l'eut rattrapée, il tint les manches de son chemisier pour qu'elle puisse l'enfiler sans cesser de courir. Toujours torse nu, il boucla sa ceinture aussitôt qu'il le put. Après avoir pataugé dans une sorte de marécage, n'était une eau limpide, ils se frayèrent un chemin à travers les hautes herbes, les yeux rivés sur le dos de Kara, qui zigzaguait assez loin devant eux. Callan faillit trébucher en traversant un ruisseau, mais elle se rétablit de justesse. En lui plaquant une main dans le dos, Richard lui évita de basculer en arrière. L'inquisitrice savait que courir comme une dératée, les pieds nus, sur un terrain aussi accidenté n'était pas une idée de génie. Mais depuis qu'elle avait vu du sang sur le visage de Kara, rien au monde n'aurait pu la contraindre à ralentir. La mort de Sith, plus que leur protectrice, était leur amie. Ils traversèrent des ruisseaux séparés par des étendues de hautes herbes qu'ils piétinèrent sauvagement. Le voyant trop tard pour pouvoir encore changer de direction, Callan sauta par-dessus le bassin qui apparut soudain devant ses pieds. Elle faillit manquer la berge d'en face et évita la chute grâce à Richard. Rassurée par le contact de sa main, elle repartit de plus belle. Alors qu'ils sortaient des hautes herbes et traversaient une série de cours d'eau en terrain découvert, l'inquisitrice, du coin de l'œil, vit un chasseur qui courait sur leur gauche. Mais ce n'était pas Johnny. Au même moment, elle sentit que Richard n'était plus derrière elle et l'entendit siffler. Callan voulut s'arrêter net, glissa, posa une main sur le sol humide pour ne pas tomber et se retourna. 20 pas derrière elle, Richard s'était immobilisé dans un ruisseau. 2 doigts entre les lèvres, il émit un nouveau sifflement perçant et impérieux. Devant l'inquisitrice, Kara et le chasseur tournèrent les talons et foncèrent vers le sourcier. Le souffle court, Callan rebroussa chemin à petits pas. Agenouillé dans l'eau, Richard venait de saisir par les épaules le jeune Johnny, qui gisait sur le ventre dans le ruisseau, pas assez profond pour le recouvrir totalement. Alors que l'inquisitrice accroupissait près de lui, le sourcier retourna le chasseur sur le dos. En passant, Callan ne l'avait pas vu, sans doute à cause de son camouflage de boue et de broussailles. Quand Richard le prit dans ses bras, sans précipitation inutile, pour le tirer de l'eau glaciale, le cadavre de Johnny, très petit et encore relativement frêle, ressembla un instant à celui d'un enfant. Lorsqu'elle l'examina, Callan ne vit ni sang ni blessure. Les membres du chasseur paraissaient intacts et son cou à première vue n'était pas brisé. Même dans la mort, son regard voilé exprimait un étrange désir charnel.
Kara déboula, fit mine de bondir sur Juni et s'immobilisa quand elle vit qu'il ne respirait plus. Aussi essoufflé que la mort de Sith, le chasseur que Kalan avait aperçu arriva à son tour, une flèche encochée sur son arc armé. Avec les doigts libres de sa main droite qui tendait la corde, il serrait un couteau contre sa paume. Juni, lui, n'avait plus ses armes.
« Que lui est-il arrivé ?»
demanda l'homme d'Adobe en regardant autour de lui en quête d'une éventuelle menace.
« Il doit être tombé ?» répondit Kalan. « Et si sa tête a heurté un rocher ?»«
Et la femme en rouge ?»«
Pour le moment, nous n'en savons rien. Nous venons de retrouver Juni. »
« Il semble être là depuis un moment, »
dit Kara en regardant Richard fermer les yeux du cadavre. Kalan tira sur la manche de la mort de Sith qui consentit à s'asseoir sur les talons pour la laisser examiner sa blessure. Par bonheur, l'inquisitrice estima qu'elle n'était pas très grave.
« Kara, que s'est-il passé ?»«
Tu es gravement touchée ?»
demanda Richard. La mort de Sith fit un geste nonchalant de la main, mais elle ne protesta pas quand Kalan, après avoir recueilli de l'eau entre ses mains, entreprit de nettoyer la plaie.
« Sers-toi plutôt de ça, »
conseilla Richard en tendant à sa compagne la poignée d'herbe qu'il venait d'arracher et de tremper dans le ruisseau.
« Je vais très bien, »
marmonna Kara, pourtant très pâle. Kalan n'en crut pas un mot. La mort de Sith vacillait, et il lui sembla même qu'elle tressaillit quand elle lui passa la compresse improvisée dans les cheveux.
« Qu'est-il arrivé ?»«
Je n'en sais rien. Je venais m'assurer que Juni était à son poste, et je l'ai vu marcher dans un ruisseau, plié en deux, comme s'il cherchait quelque chose. Après l'avoir appelé, je lui ai demandé où étaient ses armes, par geste, bien entendu, en mimant un archer qui arme son arc. Il a continué à scruter l'eau, comme s'il ne m'avait pas vu. Au début, j'ai cru qu'il avait quitté son poste pour pêcher, mais je n'ai pas repéré de poisson dans le ruisseau. Soudain, il a bondi en avant, comme si sa proie tentait de lui échapper.
La mort de Sith reprit un peu de couleur, l'effet bénéfique de la fureur.
Cet idiot m'a bousculé alors que j'avais la tête tournée pour inspecter les environs. Je suis tombé et ma tête a heurté un rocher. Ne me demandez pas combien de temps je suis restée inconsciente parce que je n'en sais rien. Mais j'ai eu tort de me fier à cet homme.
Non, tu n'as pas eu tort,
intervint Richard.
Nous ignorons ce qu'il traquait.
Les quatre derniers chasseurs venant d'arriver, Kalan leva une main pour qu'ils ne la bombardent pas de questions, puis elle leur traduisit le récit de Kara.
Ils l'écoutèrent, les yeux ronds de surprise.
Comme eux, Juni était un homme de Chandalen. Ces chasseurs-là ne quittaient pas leur poste pour aller à la pêche.
« Je suis désolé, Seigneur Ral, » souffla Kara. « Bon sang, comment a-t-il pu me surprendre de cette façon ? Et tout ça pour un absurde poisson ?»«
Je suis contente que tu t'en tires bien, mon ami, » dit Richard en tapotant l'épaule de la mort de Sith. « Mais tu devrais peut-être t'allonger parce que tu as l'air un peu patraque.
J'ai des nausées, rien de plus. Un peu de repos et ce sera fini. Comment est mort Juni ?»«
Il a dû tomber en courant, » dit Kalan.
« Comme j'ai failli le faire. Assommé par le choc, il a eu la malchance de basculer en avant et il s'est noyé. »«
J'en doute, »
lâcha Richard alors que l'inquisitrice allait traduire sa théorie aux hommes d'Adobe.
« Tu vois une autre explication ?»«
Regarde ses genoux. »«
Ils ne sont pas écorchés. Idem pour ses coudes et ses mains. »
Le sourcier fit tourner la tête du cadavre.
« Pas de sang, aucune contusion. S'il s'est assommé en tombant, pourquoi n'a-t-il pas de bosse sur le crâne ? Son camouflage de boue est seulement éraflé sur son nez et son menton, qui reposait contre les cailloux du ruisseau.
Tu penses qu'il ne s'est pas noyé ?
Quand ai-je dit ça ? Mais je doute qu'il soit tombé.
Richard examina de nouveau le cadavre.
La mort semble bien due à une noyade.
Mais dans quelles circonstances ? Toute la question est là.
Kalan s'écarta pour que les compagnons de Juni puissent s'agenouiller près de sa dépouille et lui manifester leur tristesse. Soudain, la plaine semblait être devenue un lieu sinistre.
Même si elle a abandonné son poste pour pêcher, dit Kara. Ce que j'ai du mal à croire, pourquoi aurait-il laissé toutes ses armes derrière lui?
Elle appuya un peu plus fort la compresse sur sa tempe.
Et s'il ne s'est pas assommé en tombant, comment a-t-il pu se noyer dans si peu d'eau?
Richard s'agenouilla près des chasseurs qui caressaient en pleurant le visage de leur frère d'armes. Très tendrement, il se joignit à cet ultime hommage.
« Je donnerais cher pour savoir ce qu'il chassait, » dit-il.
« Quelle proie a pu faire briller un tel désir dans son regard ?»